les docteurs médiévaux. Enfin, dimanche prochain, 18 août.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Quel est cet homme qui, descendant de Jérusalem, fut saisi par les brigands, dépouillé, roué de coups et laissé à demi-mort? Succomba à ses assauts, fut dépouillé des biens de la grâce et blessé cruellement en ceux de la nature. Remarquons-le bien, l'humanité, par le péché originel, ne fut pas seulement privée de la grâce, mais blessée au plus intime d'elle-même. Quelle est cette blessure? En un mot, c'est l'amour-propre. Il y a en nous une pente à l'amour-propre, à l'amour déréglé de nous-mêmes, qui s'exprime non seulement dans les actes mauvais, mais jusque dans le bien. Oui, jusque dans le bien, on se recherche. On fera ce qui est demandé, certes, mais ce sera pour être tranquille, pour éviter les remarques, ou bien par souci du regard des autres, pour jouir d'une bonne réputation, ou encore pour se prouver à soi-même sa propre excellence. Bref, pour soi, non pour Dieu. Triste tableau que celui-ci. Le mal est si profond. Qui en donnera le remède? Qui atteindra les profondeurs de notre nature blessée? L'homme, laissé à ses propres forces, désespère. Le chrétien, lui, est rempli d'espérance, car il sait, comme nous le dit saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, qu'à ce mal intime de notre nature, Dieu a opposé l'œuvre de la régénération intérieure de sa grâce. Considérons donc, à la suite de l'apôtre, les grandeurs de la grâce dans notre âme, puis tirons-en quelques leçons pour notre progrès spirituel. Pour mieux mettre en relief la grandeur de la nouvelle alliance, dont il est le ministre, saint Paul, comme souvent, la compare à l'ancienne. L'ancienne alliance était celle de la lettre, la nouvelle est celle de l'esprit. L'une donnait la mort, la seconde donne la vie. Que faut-il entendre par là, précisément? Et tout d'abord, pourquoi ces expressions de lettre et d'esprit? C'est, nous répond saint Thomas, que l'apôtre désigne chaque alliance par ce qu'elle a de principal, par son trait saillant. Or, si chacune des deux alliances comporte un enseignement extérieur et écrit, un texte, une lettre, seule la nouvelle alliance y ajoute le don de la grâce par l'Esprit Saint. L'ancienne alliance, par elle-même, ne conférait pas la grâce. Ainsi, l'Ancien Testament est celui de la lettre seule, car telle est sa seule richesse. Le Nouveau est celui de l'Esprit, car il ajoute à l'enseignement extérieur et écrit l'influx intérieur de l'Esprit Saint. Cette différence est capitale. Car si l'esprit vivifie, la lettre prise seule tue, nous dit l'apôtre. Cette affirmation a bien quelque chose d'étonnant. Comment un don de Dieu peut-il causer la mort? Pour bien le comprendre, il faut en revenir à l'état de l'humanité déchue. Vu la blessure de notre nature, vu ce penchant à l'amour-propre que l'homme porte en lui, s'il ne lutte pas, s'il n'est pas soutenu par toutes les richesses de la grâce, quelle réaction peut bien provoquer la connaissance toute extérieure de la loi de Dieu. Soit une obéissance contrainte et calculée pour éviter les châtiments, et c'est la tiédeur avec tous les dangers qu'elle comporte. Soit la révolte et la désobéissance, et c'est la mort. Constamment dans l'histoire sainte, nous voyons la grande majorité du peuple élu osciller tristement entre ces deux pôles. Il en est tout autrement sous la nouvelle alliance, car elle nous donne, avec l'enseignement extérieur des vérités divines, l'Esprit Saint lui-même, avec la grâce, les vertus infuses et surtout les dons. Son action dans notre âme est double. D'abord, il illumine l'intelligence, nous faisant pénétrer le sens profond de la parole de Dieu. Je vous ai dit ces choses tandis que j'étais auprès de vous, affirme notre Seigneur en Saint Jean. Mais le Paraclet, l'Esprit de vérité, que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit. Par les dons d'intelligence et de sagesse, nous n'avons plus de Dieu une connaissance extérieure et superficielle, mais cette connaissance familière, aimante, qui nous aide par la suite à voir en toute chose, en tout précepte, en tout événement, non une contrainte à notre liberté, mais la volonté d'un Père qui nous aime et veut nous mener à lui. Ayant ainsi dévoilé à nos regards sa bonté infinie, tout naturellement, Dieu attire à lui notre volonté, et c'est là sa seconde action dans notre âme. Cette volonté faible et inclinant vers le mal, il lui communique sa propre force, une participation de l'amour infini qui est sa vie de toute éternité. Un instant, avec l'apôtre, admirons l'œuvre de Dieu dans nos âmes. Ce qu'il nous donne, ce n'est plus un idéal lointain et élevé, trop élevé même pour notre nature déchue. Ce qu'il nous donne, c'est sa propre présence au plus intime de notre âme. Là, élevant jusqu'à lui notre intelligence et notre volonté, il se donne à contempler et à aimer à l'âme qui le cherche. Oh oui, le don de Dieu est grand, infiniment grand, et la gloire de cette nouvelle alliance, opérant dans le silence des cœurs, est sans commune mesure avec celle de l'ancienne, conclue dans le fracas du tonnerre au sommet du Sinaï. Nous avons admiré les splendeurs de cet idéal, les splendeurs de l'œuvre de la grâce dans notre âme. Mais cette considération nous invite à un sérieux examen. Sommes-nous fidèles à cet idéal? Vivons-nous réellement dans cette intimité avec Dieu, qui nous fait en toute chose voir et accomplir sa volonté? Aussi, pour conclure, venons-en à quelques moyens pour grandir dans la vie intérieure. Saint Paul lui-même nous les suggère dans les premières phrases de son épître. Ce sont la prière et la lutte contre nos défauts. La prière tout d'abord, car l'intimité avec Dieu que nous donne l'Esprit Saint est un don absolument gratuit. Nous ne sommes pas même capables, nous dit l'apôtre, d'avoir de nous-mêmes, de notre propre fond, une seule bonne pensée. Mais cette capacité nous vient de Dieu. Il nous faut donc prier, prier sans cesse, prier humblement pour demander la grâce. À cet égard, l'approche du 15 août nous suggère de nous examiner sur la récitation de notre chapelet. Est-elle devenue une routine, une pratique sans âme dont nous acquittons tant bien que mal? Ou est-elle cette prière contemplative, chère à notre âme, qu'elle devrait toujours être? Appliquons-nous, portons-y plus de soin, prenons plus de temps pour bien nous mettre en présence de Dieu et poser le regard de notre âme sur les mystères à méditer. Faisons ensuite les efforts nécessaires pour maintenir ce regard fixé pendant la prière. Par ailleurs, en ces mois d'été, d'ordinaire moins chargés, réfléchissons si nous n'avons pas la possibilité de parsemer nos journées de quelques dizaines supplémentaires pour raviver dans nos âmes le feu de la vie divine. Il faut prier, prier beaucoup. Mais prier n'est pas suffisant, car la grâce, nous dit saint Paul, nous est donnée comme une capacité. C'est-à-dire, elle nous est donnée comme une graine qui doit porter des fruits, comme un don qui doit fructifier. Nous devons collaborer à la grâce. Aussi, joignons à nos prières des efforts persévérants, notamment pour la lutte contre nos défauts. Car l'amour de Dieu et l'amour propre s'excluent l'un l'autre. La vie intérieure ne pourra croître dans nos âmes que dans la mesure où nous nous efforcerons d'en chasser tout ce qui est contraire. Demandons à Notre-Dame ses lumières pendant cette messe, qu'elle nous accorde de voir clairement nos défauts et les efforts qu'elle attend de nous, qu'elle nous donne la force de les mettre en œuvre avec courage et fidélité, afin que cette vie de la grâce que Dieu a placée dans nos âmes fructifie pour la gloire dans le ciel, dans l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.